D'abord, que je vous dise qu'on ne risque rien à livrer le secret professionnel, puisque on ne livre pas le moyen de s'en servir.
Secret professionnel par Charles Danzy. Dans leur vulgarité si fréquente, les médias grand public cherchent du scandale et en créent pour se vendre. Ils parient plus volontiers sur la vulgarité que sur la discrétion, sur le sommaire que sur l'intelligent, sur le bruit que sur la réflexion. Se régalant de scandales, prospérant sur l'ordure, vendant en exhibant les seins des autres, ils ne font pas toujours du bien au monde. Je me demande si toute personne qui se scandalise, ce qui est bien autre chose que l'indignation, n'est pas scandaleuse ou disons indigne. Prenons le Second Empire. On n'a jamais vu autant de laideurs et de bêtises rassemblées en France que sous ce régime. En une journée, le 3 décembre 1851, tout est devenu épais, de l'épaisseur d'un régime de coup d'État qui venait d'écraser le pays. Les meubles, les tapisseries, les rideaux, tout prend 5 cm et 5 kg. Les bibelots même acquièrent des proportions d'éléphants. Les tableaux s'allongent afin de mieux montrer des processions bénissant les blés. Et des prosternations du genre, on n'en pense pas moins, devant un monarque morne et sa femme aux airs penchés. C'est du style Marie-Antoinette épaissie, du style palace déjà. Il n'est pas aberrant que le palais de l'impératrice Eugénie à Biarritz ait été transformé en hôtel de luxe, chose qui aurait été impossible avec, disons, Fontainebleau. C'est du détail énormifié. Style d'un régime toujours scandalisé par l'opposition et qui faisait de la morale en permanence. Or, le vrai scandale, c'est la Vénus de Cabanel qui se tord sur un rocher comme une oie plumée, plus lascive que la prostituée de l'Apocalypse. Mais voilà, le tableau a été acheté par l'empereur, alors il est convenable. Et c'est Madame Bovary qui fait scandale et est condamnée. En 2016, des maires qui mélangent la politique et ce qu'on appelle les mœurs, signe toujours imparable de l'incompétence qui fait du tapage pour avoir l'air de travailler, interdisent des affiches contre le sida où deux hommes se tiennent dans les bras, au motif que ce serait dangereux pour les enfants des écoles. En revanche, ils laissent des affiches de Dolce Gabbana où une femme à terre est quasiment violée par un homme. Ça n'est pas scandaleux. Quelle est la part d'hypocrisie du scandale? À l'occasion de l'exposition « Tenue correcte exigée, quand le vêtement fait scandale » au Musée des arts décoratifs, du 1er décembre au 23 avril prochain, je reçois pour en parler son commissaire Denis Brunin. Denis Brunin, les règles de l'habillement, c'est un peu comme le rite du mariage, ça évolue dans les temps et on croit que ça a toujours été éternel, mais ce qui est intéressant dans votre exposition, c'est qu'on voit que le vêtement moderne sort comme beaucoup de choses d'une révolte contre le Moyen-Âge, en quelque sorte. La religion avait jusque-là beaucoup fixé de règles, d'habillement, qui étaient assez peu de différenciation entre les sexes, le refus du luxe, etc.
Il y avait des règles, en effet, dans le temps, mais il y en a toujours. Je dirais, il n'y a peut-être pas des règles écrites, comme on le croit. En tout cas, pas des règles écrites, comme il y a pu en avoir à travers les siècles, et au moment donné où la monarchie était puissante, où l'Église aussi était puissante. Mais il y a encore aujourd'hui des codes, et des codes vestimentaires. Beaucoup de nos concitoyens croient que les codes vestimentaires n'existent plus, ce qui est une aberration, parce que tout ce que nous portons comme vêtements sont des codes. Et alors il y a ceux qui les respectent, qui les suivent à la règle, c'est-à-dire qui vont s'habiller en fonction de leur sexe, en fonction de leur identité, en fonction de leurs origines, leur milieu social, etc. Et puis il y a ceux, j'oserais dire heureusement pour un historien des modes et des vêtements, qui décident de transgresser, de bousculer ces codes et de s'habiller différemment.
Oui, ça on va y venir, mais je voudrais qu'on fasse d'abord une perspective historique, comme vous le faites vous-même dans l'exposition. Ce qui est intéressant, enfin d'abord, même si évidemment les codes n'étaient pas édictés en tant que tels par l'Église, ce qui est amusant, c'est qu'elle scandalisait déjà des détournements de la règle, vous allez peut-être nous en parler, sans se l'appliquer à elle-même, puisque nous savons que les papes étaient plutôt habillés comme des idoles, et des choses déjà faisaient scandale, disons à la toute fin du Moyen-Âge, et j'aimerais bien que vous me racontiez un des premiers scandales de l'habillement moderne, qui sont les souliers à la poulaine.
Alors les souliers à la poulaine sont apparus au cours du XIVe siècle. C'était des chaussures assez particulières que portaient plus particulièrement les hommes. C'est-à-dire que ces souliers étaient pourvus à l'extrémité d'une pointe qui pouvait être particulièrement longue.
Alors longue de combien ?
Longue entre 5, 10 et 15 centimètres vraiment pour les plus longues.
C'était une pointe en tissu, en métal ?
C'était une pointe en cuir, c'est-à-dire c'était juste, on va dire, c'était vraiment la forme de la chaussure en cuir qui donc adoptait cette forme particulière. particulière pour tenir la pointe, je dirais, bien verticale. L'extrémité de la chaussure était pourvue d'un rembourrage de mousse, de tissu.
C'était des sandales, des chaussures à talons. Quand vous dites la pointe était verticale, elle était vraiment levée.
Non, c'était vraiment des chaussures plates. Il n'y avait pas de talons, donc c'était des chaussures plates qui couvraient, je dirais, le pied au niveau donc du talon et sur le devant. Et donc la pointe se trouvait sur le devant, dans, pourrait-on dire, dans l'allongement du gros orteil.
Mais horizontal, pas vertical.
Horizontalement, horizontalement, et parfois la pointe pouvait se redresser. Alors l'idée était, d'abord Charles V, qui était roi de France à la fin du XIVe siècle, avait interdit notamment ses chaussures pour ses conseillers, notamment pour les clercs au château du Louvre.
Parce qu'il
disait que, d'abord Charles V était assez frileux à l'égard des modes nouvelles, et puis l'idée de ces chaussures, c'est qu'elles pouvaient dissimuler, on va dire, une malformation du corps. On se posait beaucoup de questions, s'ils ne cachaient pas, on va dire, un orteil plus gros que l'autre, par conséquent aussi un ongle, et on pourrait presque dire presque une griffe plus longue que l'autre. Il y avait une connotation à travers ces chaussures particulières, une connotation animale, peut-être voire diabolique, et l'idée aussi de la déformation du corps dans un contexte particulier où, dans la culture chrétienne de ce XIVe siècle, étant donné que c'est Dieu qui a créé l'homme à son image, donc par conséquent Dieu a fait l'homme beau, et la déformation du corps de l'homme irait jusqu'à presque déformer le corps de Dieu, donc ce qui était par conséquent mal vu. Donc énormément de critiques à l'égard de cette mode.
D'où vient le nom ?
Poulaine, ça vient en vieux français pouloniaise, c'est-à-dire venant de la mode Pologne. Et d'ailleurs, on trouve dans les textes anglais de la même époque, puisqu'il semble que la mode soit apparue en France vers 1340-1350 et se répande un petit peu plus tard en Angleterre. En Angleterre, on parle de nom de Cracoves, qui viendrait de Cracovie peut-être. En tout cas, il semble que cette mode vienne de l'Est. Oui.
Mais c'est une origine légendaire ou on n'en sait rien du tout ?
Il est probable qu'elle soit légendaire. Très souvent, les modes un peu originales viennent rarement du cru. Elles viennent des pays lointains. Et ça, on peut le voir à travers les siècles. Les modes les plus bizarres, par exemple, pour les Anglais, venaient très souvent de France. Et pour les Français, elles venaient très souvent d'outre-Manche.
Oui. C'est-à-dire qu'on invente des origines étrangères pour faire passer quelque chose d'extravagant ?
Très souvent, oui. Très souvent. Oui.
Et ce qui est intéressant dans ce que vous dites aussi, c'est qu'immédiatement, on met une objection morale à une chose esthétique. Puisque vous me dites qu'on pourrait supposer que ça signifie un doigt crochu, que le corps de Dieu était offensé par cette déformation du corps. Donc on met une objection morale à une chose esthétique. Charles V n'a pas dit « c'est laid ».
Ah, Charles V, dans ses textes, il parle notamment des outrageuses.
Oui, mais outrageuse, ça veut dire scandaleux, ça ne veut pas dire « laid ».
Il critique beaucoup les modes, c'est-à-dire en plus, je dirais, Charles V arrive à un moment particulièrement clé dans l'histoire des modes en Occident, à savoir que jusqu'à son époque, les hommes étaient vêtus comme les femmes, c'est-à-dire vêtus notamment de longues tuniques, de côtes particulièrement longues, donc c'est-à-dire de vêtements qui étaient largement ouverts. Et la mode, pour des raisons qu'on ignore encore, je dirais, la mode pour les hommes devient au court et reste long pour les femmes. Et donc c'est l'évolution des choses, des autre chose, des culottes, puis des pantalons quelques siècles plus tard. Charles V est très frileux à l'égard de ces modes, et donc c'est vrai qu'il n'aime pas, je dirais, ces chaussures, parce qu'elles sont nouvelles, pour revenir au Poulaine, parle qu'elles sont nouvelles, mais c'est très souvent le cas de la mode. La mode est une nouveauté, c'est surtout, je dirais, une mode nouvelle qui apparaît pour en chasser une autre, qui vient s'opposer. Et donc, oui, il y a précisément une volonté de critiquer la nouveauté, d'autant plus que celle-ci est particulièrement forte, elle est particulièrement visible.
Alors, ce qui est intéressant pour rester un moment dans cette période, c'est qu'au XIVe siècle, on abandonne une mode qu'on pourrait appeler unisexe, probablement avec un mot qui ne convient pas pour l'époque, et les femmes se mettent à ressembler à des licornes, les hommes à des guêpes, elles ont des chapeaux à longues pointes, ils ont la taille serrée, des chausses moulantes. Est-ce que vous diriez que c'est une mode qui s'est mise à imiter les œuvres d'art, parce qu'au fond on voit des tapisseries qui ressemblent à ça, ou est-ce que la vie imite l'art, y compris dans la mode ? Est-ce qu'on peut savoir ça? D'où vient cette, tout d'un coup ce changement de l'aspect des hommes et des femmes au XIVe siècle?
Est-ce que la vie imite l'art? Je dirais plutôt le contraire. Je pense que c'est l'art, notamment au XIVe et surtout au XVe siècle, qui imite et qui s'inspire largement de ce que l'on peut voir dans les palais et même aussi dans les rues. Parce que ce que nous voyons notamment dans les arts lumineux, dans les arts visuels au XVe siècle, c'est, je ne vais pas dire le reflet, mais c'est un reflet de la réalité, en tout cas de la mode. En effet, je dirais, les hommes abandonnent les vêtements longs, vont porter donc des choses qui vont leur couvrir les jambes, les vêtements deviennent beaucoup plus courts. Il y a eu énormément de critiques à cet égard, d'autant plus parce qu'il y a aussi une invention, c'est celle de la maille, c'est-à-dire on a découvert une armure particulière qui permet de faire des tissus plus élastiques. Par conséquent, la maille va donc épouser, va mouler toutes les formes du corps et notamment des jambes, vu que les jambes des hommes sont apparentes. On va même jusqu'à mouler, je dirais, les fesses, puisque vraiment les vêtements sont courts. Alors on peut imaginer, je dirais, toutes sortes de chroniqueurs, de moralistes de l'époque parlant de l'indécence des vêtements, voyant les fesses, mais aussi également le sexe des hommes.
Ah bah oui, j'ai trouvé là une citation de Chaucer, le poète anglais, qui dit, qui s'indigne de ce que les pantalons, qui ne portaient sûrement pas ce nom à l'époque, laissent apparaître, et je le cite, le membre honteux de l'homme.
Oui,
ça s'appelait comment, ces pantalons?
C'était des choses, c'est-à-dire vraiment des longs bas, vraiment pour utiliser un mot anachronique, mais peut-être aussi beaucoup plus simple. Donc c'était des choses qui montaient très haut, qui couvraient aussi en partie les fesses, qui étaient tenues à la taille par des liens. Et par conséquent, vu qu'on portait au-dessus un pourpoint, donc une sorte de haut, mais qui arrivait à peine en dessous de la taille, il est vrai, je dirais que ces parties qui avaient été cachées pendant des siècles, pour les hommes, devenaient très visibles.
Ce qui est intéressant dans votre exposition, c'est que vous montrez que la chose est tellement rejetée que dans un retable qui montre le baiser de Judas en 1515, les méchants soldats portent un pourpoint et des choses. C'est exactement comme dans les films américains des années 2000 où les méchants tout d'un coup fumaient des cigarettes parce que la cigarette était...
On peut dire ça, mais il est vrai qu'en fait, dans les arts visuels, à la fin du Moyen-Âge, le vêtement tient un rôle essentiel, c'est-à-dire que on veut montrer le rôle négatif des bourreaux, des saints, des bourreaux du Christ, en leur faisant porter des vêtements qui étaient considérés comme étant les plus indécents de l'époque, c'est-à-dire donc les vêtements qui moulaient le corps, avaient des couleurs qui étaient inconvenantes, les rayures, et là je me réfère bien sûr aux immenses travaux de Michel Pastoureau. En effet, on reconnaît les bourreaux en portant précisément des vêtements non seulement indécents, mais sur lesquels on va aussi exagérer l'indécence. Par exemple, les vêtements sont déchirés, par conséquent on peut voir à travers, les vêtements sont mal attachés, par conséquent les chaussures tombent, les boutons sont mal mis, donc les pourpoints sont ouverts. Donc il y a en effet des codes visuels qui permettent en effet de distinguer très vite, je dirais, le bon du mauvais.
Alors, ce qui est intéressant à cette époque, c'est que apparemment l'impudicité des hommes est plus critiquée que celle des femmes, mais ça tient aussi au fait que finalement le vêtement féminin a moins évolué puisque les hommes ont quitté les robes longues et portent, comme vous l'avez dit, des pantalons, enfin des choses, alors que les femmes ont gardé des vêtements plus longs, et je crois que c'est plutôt par la coiffure qu'elles se libèrent et par les chapeaux et les coiffes qu'elles montrent leur indépendance.
Étant donné que le bas était couvert et particulièrement invisible, les parties, on va dire, les plus critiquées de la garde-robe et du corps des femmes étaient en effet les parties hautes. Alors, il y a en effet les coiffures, mais il y a aussi la poitrine qui se découvre considérablement au XVe siècle. Par conséquent, les décolletés sont plongeants à cette époque. La poitrine est mise en valeur par des corsages très serrés au niveau de la taille, au niveau également du buste. Donc, la poitrine a été sévèrement critiquée par les moralistes, mais la coiffure aussi, en effet. C'est-à-dire que les femmes vont progressivement abandonner à partir du XIVe siècle les timides voiles qui couvraient leur chevelure pour porter des coiffes qui vont prendre des dimensions vertigineuses, c'est-à-dire en forme de pain, en forme de cône, en forme de pain de sucre, et très souvent on parle notamment de coiffes à cornes, et très vite les associations se font avec les cornes animales, les cornes diaboliques, et les critiques sont particulièrement sévères. Oui.
Ça me rappelle tout d'un coup le film où joue Greta Garbo, Ninotchka, qui joue un commissaire politique soviétique qui vient à Paris dans les années 20 et qui se libère par le chapeau. Elle aussi, tout d'un coup, elle découvre la liberté occidentale par des chapeaux.
Par le chapeau, ouais. D'accord.
Et dans votre exposition, ce qu'on verra, c'est que le puritanisme, qui n'est jamais en peine de trouver des moyens d'embêter les braves gens, un prédicateur des Flandres en 1428 organisait des bûchers de hénin.
C'est vrai, oui, c'est vrai, à la fois des bûchers de produits à la fois de luxe, à la fois parce qu'on en voulait beaucoup, à la fois à deux catégories, on va dire, sociales, qui étaient, je dirais, les femmes et les jeunes, qui étaient considérées comme celles et ceux qui dépensaient le plus d'argent, notamment dans les produits de luxe et dans les vêtements. Et en effet, il y a eu, en effet, des bûchers, je vous dirais, les femmes devaient porter leur coiffe à pain, leur coiffe haute, pour être brûlées sur la place publique, oui.
Et alors, tout ça, évidemment, c'est des réactions plus ou moins religieuses, et même parfois très religieuses, à la mode et au fond au plaisir. Et ce que montre votre exposition, c'est que l'arrivée de la réforme et du protestantisme, c'est aussi l'arrivée du noir dans la mode, parce que tout d'un coup, c'est une austérité.
Oui, mais la réforme n'est pas très éloignée de l'Église catholique, parce que le vêtement était, je dirais, de près comme de loin associé à la chute, c'est-à-dire au péché. L'idée est de raccrocher, à la fois par les théologiens, les pères de l'Église, les moralistes, à la fois catholiques et protestants, l'idée de rattacher le vêtement à Adam et Ève, qui vivaient, comme on le sait, nus au paradis, ils vivaient une vie délices, ils avaient le droit de tout faire, sauf de manger le fruit des vents. On connaît la suite de l'histoire, c'est ce qu'ils ont fait. Donc Dieu les a chassés du paradis et pour couvrir leur nudité qui désormais est devenue honteuse, Dieu leur a donné un vêtement de peau. Et l'Église, qui était un pouvoir, je dirais l'Église catholique, on va dire avant le XVIe siècle, puis les auteurs réformés par la suite, ont demandé à ce que le vêtement soit le plus discret possible, soit le plus sobre possible, pour ne pas que le vêtement soit un signe visible du péché, soit un signe visible de la chute d'Adam et Ève.
Nous allons maintenant entendre la scène d'ouverture d'un excellent film satirique sur la mode, Qui êtes-vous, Polly Magou? C'est un film de William Klein et il date de 1966.
Oh, tu sais ce que t'as à faire, hein? Tu tournes, tu planes et tu t'envoles. Voilà. Tu tournes, tu planes et tu t'envoles. Tu peux pas bien te dire. Ah, et puis on repart pas deux fois, c'est pas la peine, c'est pas la peine de repartir deux fois.
Ah, voilà, Miss Maxwell, quelle punaise.
C'est laquelle est-ce?
Bah, c'est la rédactrice en chef, tu l'as vu entre...
Enfin, ça fait rien. Bon, c'est parti. Oui, bon, ça suffit maintenant. C'est pas la peine de s'y rétendre. Allez, ça va.
Numéro 1. Number 1.
Oh, je suis belle.
Oh, non.
Ça, très bien. Oh, je suis belle. Oh, ça, c'est absolument admirable. Évidemment, pas commode, mais que faire.
Oh, c'est étonnant. Oh, que c'est beau, ça.
Fantastique.
Ça, c'est une beauté.
Magnifique. Magnifique.
Denis Brunin, nous allons faire un saut dans le temps, si vous le voulez bien, et arriver au 19e siècle, au moment où la mode et l'habillement ont été très réglementés par la bourgeoisie triomphante. Est-ce que vous diriez, avant de venir au temps contemporain, que nous vivons encore d'une façon ou d'une autre sur les codes vestimentaires édictés par la bourgeoisie triomphante des années 1830?
Je pense qu'on peut le dire, parce qu'il y a encore toute une série, je dirais, de manuels qui sont publiés aujourd'hui, qui ont repris vraiment, je dirais, un regain d'intérêt dans les publications à partir des années 1990 jusqu'à nos jours, où on peut voir, je dirais, sont des guides, dirons-nous, de bonne manière. On nous apprend le maintien, comment se tenir à table, comment préparer, je dirais, une table. Souvent, il y a des chapitres très importants consacrés à l'habillement. Et ces ouvrages très récents sont vraiment les héritiers directs de tous ces manuels de savoir-vivre, les manuels de civilité qui ont été très importants durant le 19e siècle. Aujourd'hui, ce sont peut-être aussi les blogs internet qui ont pris le relais. Il y a des émissions de télévision qui sont spécialisées dans l'habillement, le relooking, comme on dit. Mais il y a une multitude de sites internet qui nous apprennent comment s'habiller lorsqu'on est invité à une soirée, un entretien d'embauche. Et nous sommes vraiment, pourrait-on dire, dans l'héritage direct de ces manuels qui ont été très importants durant les années 1830-1880.
Donc, vous diriez que nous vivons, malgré les apparences, ou peut-être pas, dans une époque conservatrice en matière d'habillement ?
Je pense que l'habillement est toujours conservateur, parce qu'il faut respecter des règles, parce que l'habillement est un code, et la grande majorité de nos concitoyens, je dirais, suivent ces codes, et c'est une minorité qui les transgresse, oui.
Alors, à propos de transgression et de scandale, il y a une chose intéressante, ce sont les hommes en jupe. On sait que Jean-Paul Gaultier a fait ça en 1985, mais on verra dans votre exposition que ça avait commencé bien avant, en 1970, avec Jacques Esterel qui avait le premier fait ça, et d'ailleurs, David Bowie fait un disque qui s'appelle The Man Who Sold the World où il est montré en jupe. Et ça a fait un scandale, et très probablement parce que c'était un tremblement dans les gens, si on peut dire, et qu'on avait peur que les hommes aient une apparence féminine. Et d'autre part, est-ce qu'on n'a pas mieux accepté les femmes en pantalon, parce que finalement les femmes en pantalon, ça voulait dire qu'elles allaient et qu'elles reconnaissaient que le pouvoir était du côté de l'homme.
Oui, en effet, quand on regarde l'histoire des usages vestimentaux, les femmes sont allées plus vers la garde-robe masculine et ont emprunté de très nombreuses pièces donc de vêtements masculins, le chapeau, la cravate, le talon, la veste et le pantalon qui est de loin le plus célèbre. En revanche, l'inverse est beaucoup plus rare. En effet, très peu d'hommes, je dirais, ont emprunté des éléments de la garde-robe féminine comme la jupe qui est identifiée aujourd'hui comme étant une pièce donc du vêtement féminin. Ce qu'elle n'a pas toujours été, on a parlé en début de cette émission notamment des longues tuniques que portaient en tout cas les hommes en France jusqu'à la fin du XIVe siècle. En revanche, oui, il est beaucoup plus difficile un homme de porter un vêtement identifié comme étant féminin que l'inverse. Cela est dû, je dirais, au statut entre guillemets inférieur que la femme a revêtu depuis les siècles. Donc un homme qui porterait un vêtement identifié comme féminin irait, pourrait-on dire, vers l'imperfection, irait vers l'inférieur, vers par conséquent l'efféminement, ce qui est toujours très condamné dans notre société.
Alors dans la suite de ces hommes en jupe, il y a eu des scandales vrais ou faux, enfin vraiment organisés ou faussement ressentis, qui sont en particulier le premier défilé de vêtements déchirés de Comme des garçons, c'était je crois en 1981, et le porno chic de Tom Ford chez Gucci, aidé par son photographe Mario Testino. D'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est de voir que comme tout le monde vieillit, Yves Saint Laurent, qui avait été la jeunesse même, au moment de Tom Ford, a fait une interview en disant que le porno chic était une ignominie.
Oui, en effet, l'un des premiers grands défilés qui a fait scandale dans les années 80 ont été les défilés des Japonais, c'est-à-dire Yoji Yamamoto et Comme des garçons, qui sont arrivés dans le Paris des années 80, qui était le Paris de la mode particulièrement festive, colorée. C'était l'époque des Lacroix, de Gaultier, de Montana, de Mugler. C'est-à-dire, ils sont arrivés en présentant donc des vêtements qui étaient noirs, déchirés, troués, déstructurés, et il y a eu un véritable malaise, une incompréhension par rapport à cette mode, qui après a fait des émules avec le temps. Mais entre 81 et 83, il est vrai que les journalistes, même les journalistes de mode, qui sont très souvent conciliants à l'égard des défilés, étaient particulièrement surpris de voir, je dirais, l'arrivée de cette mode particulièrement nouvelle à Paris. Ensuite, il y a eu d'autres défilés, en effet, qui ont fait scandale. Vous avez évoqué donc le porno chic, mais il y a eu, par exemple, le défilé de John Galliano pour Dior en 2000, s'inspirant notamment des sans domicile fixe. Il y a eu notamment beaucoup de manifestations, en tout cas des manifestations le lendemain du défilé devant la boutique Dior avenue Montaigne, trouvant l'idée de s'inspirer des pauvres et des sans-abri comme étant un sujet indécent. Et le dernier qui est évoqué, en tout cas à l'exposition, c'est le défilé 2015 de Rick Owens, qui va jusqu'à jouer avec l'un des derniers grands tableaux tabou, on va dire, du vêtement et du corps, qui est précisément de montrer le corps nu. En effet, il y a peut-être très très peu d'interdictions vestimentaires aujourd'hui. Quand
il ne montre pas, pardon, vous interrompez, il faut être précis, il ne montre pas le corps nu.
Il ne montre pas le corps nu, mais enfin, il a fait des tuniques, je dirais, pour les hommes qui sont ouvertes sur le devant et par conséquent, on pouvait y voir le sexe. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui a vraiment enflammé la toile et on en a parlé à travers le monde. Ouais.
Alors, justement, ce qui est intéressant, vous parliez du manque d'audace des rédactrices de mode ou des rédacteurs de mode vis-à-vis des défilés, mais évidemment, comme nous savons, ce sont les annonceurs les plus généreux du pays, donc on peut difficilement être tout à fait libre quand on en parle, mais je voudrais savoir, justement, vous avez parlé de Dior et de Galliano, quelle est la part de sincérité du scandale là-dedans? C'est-à-dire, on sait très bien que Galliano, c'est Dior qui a été racheté par LVMH, et LVMH m'a donné Dior à Galliano en 97, et la même année, LVMH a aussi, qui avait aussi racheté Givenchy, l'a donné à Alexander McQueen. Donc, on sait, et la collection SDF que vous venez de citer, je crois, date de 2000. On sait très bien, ou on suppose quand même, que tout ça sont des gens qui ne sont pas bêtes, ça engage des milliards d'euros, et qu'ils se disent bien qu'un scandale est un faux scandale organisé, parce que ça fait des images gratuites à la télévision qui seront diffusées en boucle, et la marque qui est répandue. Non, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une part d'hypocrisie dans ce scandale-là?
Hypocrisie, je n'irai pas jusque-là. C'est aussi un moyen, en tout cas, de faire reparler de soi, je pense, en tout cas. L'idée aussi, c'est que l'image de la mode a beaucoup changé depuis les années 1950 et précisément que le défilé est devenu une vitrine de la maison. Par conséquent, le défilé, je dirais, de mode aujourd'hui et ce, depuis la seconde moitié du XXe siècle et plus encore depuis les années 80, sont devenus de véritables shows, ce qui n'existait pas, par exemple, dans les années 20, 30, 40. Et par conséquent, je dirais, c'est devenu un peu donc le miroir, le signe visuel de la marque. Et c'est le moment, je dirais, rêvé de montrer donc des créations particulières, singulières, dont la presse pourra en faire un écho. Oui.
Oui, parce que ça, en réalité, ces défilés, on sait très bien que ça n'est pas parce qu'il y a un vêtement déchiré ou un pantalon avec le pénis apparent que c'est fait pour être vendu, c'est fait pour vendre les parfums qui portent le même nom dans les supermarchés.
C'est très lié, c'est vrai. Mais il faut voir aussi que, par exemple, dans le défilé de Rick Owens, je ne me souviens plus combien il y avait donc, de mannequins qui défilaient, mais le nombre de mannequins qui portaient précisément les tuniques qui laissaient donc, le pénis apparent était particulièrement rare. Et je crois qu'il y en avait 4 ou 5.
Ça suffit, on peut les voir dans le très bon documentaire de Loïc Prigent d'ailleurs qui s'appelle Scandale de la mode qui vient d'être diffusé.
Voilà, donc c'est vraiment très peu par rapport à l'ensemble du défilé et après la presse en a fait le relais aussi.
Oui, mais très peu, ce n'est pas un raisonnement. Très peu, il suffit d'en voir une, il suffit de voir un sexe et c'est ce qui compte. C'est pas qu'il y en ait 200 ou un. Le scandale vient de l'unité, de la première fois qu'on le fait.
C'est vrai, on peut dire ça aussi. Mais c'est vrai, en tout cas, je dirais que ça a été un moyen de communication important. Après, il faut, je pense, aussi poser la question au créateur. Est-ce qu'il y a eu une volonté de faire un vêtement particulier ou est-ce qu'il y a eu une volonté, en effet, de provoquer ?
Denis Brunet, ce qui est intéressant dans ces histoires de vrais ou faux scandales de la mode, c'est qu'il y a toujours à un moment donné des gens qui commandent la mode et qui finissent toujours par avoir l'air de vieux barbons de Molière qui embêtent le monde en oubliant que, après tout, le sexy, ça peut être simplement une chose gay. Je pense à une robe qu'on verra dans votre exposition qui est la robe de Guy Laroche pour Mireille d'Arc dans le film Le Grand Blond avec une chaussure noire qui date de 1973. Et pour rappelez-nous comment elle est cette robe.
C'est une robe longue, une robe noire, je dirais, qui est largement couverte sur le devant. En revanche, il y a un décolleté très plongeant dans le dos. Mireille d'Arc s'est exprimée à ce sujet. Elle a demandé à Guy Laroche de lui faire une robe particulière, singulière, en lui précisant qu'elle n'avait pas une poitrine, je dirais, très forte. Et donc, elle a voulu mettre plutôt en avant son dos et puis la lisière de ses fesses. Et donc, en effet, il y a ce décolleté très plongeant dans le dos. Et elle explique que lorsqu'il y a eu la première séance d'essayage, toute l'équipe autour a eu le souffle coupé. Et il y a cette scène, je dirais, très amusante et très mythique dans le film où Pierre Richard découvre lui aussi pour la première fois cette robe où il est particulièrement stupéfait.
Une marque de lingerie qui s'appelait Scandale a été fondée en 1933. Elle existe toujours. Un parfum s'appelle Scandale. On se demande comment le scandale peut encore faire scandale. Alors Denis Brunet, le secret professionnel du scandale, si on l'applique à la mode, s'expliquerait-il par le renouvellement perpétuel de la bêtise ?
Le renouvellement perpétuel de la mode, oui, et c'est le principe même de la mode. Au XVIIIe siècle, on disait qu'elle était inconstante, qu'elle était capricieuse. De la bêtise, je n'irai pas jusque-là.
C'était Secret professionnel, le 239e. La semaine prochaine, je parlerai du secret professionnel de l'émotion par la gourmandise. Réalisation Doria Zénine, attaché d'émission Daphné Abgral, prise de son Yacine Monet. Dans un instant, une saison au théâtre avec Joël Gaillot.